Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Et Kabadou avec vous en direct de Washington pour Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30, la même heure à Abidjan et Lomé. Bonsoir à tous, voici les titres. En République démocratique du Congo, l'ONU dénonce les violences contre des candidats de l'opposition et appelle les autorités à faire respecter le droit à la liberté d'expression. En République centrafricaine, des antibalakas se retirent du processus de désarmement. Au Cameroun, la libération d'une centaine de détenus suite à l'annonce de la grâce présidentielle.
Je peux dire que ça, c'est le commencement de la paix. Parce que tout le monde qui suit ça, on sait qu'il y a quelque chose de bon qui vient. C'est une surprise.
Report de l'audience à la CPI sur la libération provisoire de Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé. Ici, aux États-Unis, l'ex-avocat Michael Cohen persiste dans ses accusations contre le président américain. Ne manquez pas dans 10 minutes l'actualité économique et les sports. La CAF a dévoilé la liste des 10 finalistes pour le titre de footballeur africain de l'année. Mais tout d'abord, le journal. Le commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dénonce les violences contre des candidats de l'opposition aux prochaines élections en République démocratique du Congo et elle appelle les autorités à respecter le droit à la liberté d'expression. Nani Talani, le point.
Michelle Bachelet affirme être très inquiète au sujet d'informations faisant état d'un usage excessif de la force, y compris de balles réelles par les forces de sécurité contre des réunions de l'opposition. La fonctionnaire de l'ONU affirme qu'à quelques jours des élections cruciales en RD Congo, il est essentiel que les autorités s'assurent que les droits à la liberté d'expression et à des réunions pacifiques soient totalement protégés et qu'elles prennent toutes les mesures possibles pour prévenir des violences. Michelle Bachelet demande au gouvernement congolais d'envoyer le signal clair que toutes les menaces et les violences à l'égard d'opposants politiques ne seront pas tolérées. Elle réclame une enquête rapide et efficace et que les auteurs rendent des comptes. Jeudi, un jeune partisan de l'opposant Félix Tshisekedi a été tué à Mbujimayi dans le centre du pays. Cette semaine, au moins 4 partisans de Martin Fayulu ont été tués au Katanga. Un dépôt de la Commission électorale nationale indépendante a été incendié à Kinshasa et plus de 8000 machines à voter sont parties en fumée.
Toujours en République démocratique du Congo, l'épidémie Ebola en cours dans l'est du pays a fait plus de 300 morts, ont rapporté les autorités sanitaires qui saluent une petite victoire, la guérison d'un nourrisson. En République centrafricaine, les groupes dits d'autodéfense anti-balaka ont décidé de se retirer du processus de désarmement après l'arrestation en France de Patrick-Edouard Ngaïsona, un de leurs leaders. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Nous constatons que seuls les anti-balaka sont jugés et condamnés, indique un premier communiqué de la branche de M. Ngaïsona. Dans un communiqué séparé, l'autre branche anti-balaka, dirigée par Maxime Mokom, dénonce ce qu'elle qualifie de chasse aux sorcières. Les deux factions ont appelé leurs représentants à se retirer du processus de désarmement, démobilisation et réintégration. Nous avons fait preuve de bonne volonté, nous avons entamé le dialogue, on ne comprend pas, a déclaré Dieudonné Ndomaté, coordonnateur des opérations des anti-balaka. Selon lui, je cite, les gens dans les quartiers sont en colère à Bangui. Sébastien Wenezui, porte-parole de Ngaïsona, a néanmoins appelé à la retenue. Patrice Edouard Ngaïsona a été arrêté à la suite d'un mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale. Il est poursuivi pour sa responsabilité présumée dans des crimes commis dans l'ouest de la Centrafrique entre septembre 2013 et décembre 2014. Il était l'ancien coordonnateur politique des anti-balaka, mais aussi président de la Fédération centrafricaine de football. Son arrestation intervient moins d'un mois après celle d'Alfred Yekatom, dit Rambo, un autre ancien chef anti-balaka. Le Conseil de sécurité a renouvelé hier le mandat des casques bleus de la MINUSCA jusqu'à la fin 2019.
Au Cameroun, 289 personnes détenues pour des faits liés à la crise anglophone, gracées hier par le président Paul Biya, seront libérées aujourd'hui d'après le ministre de la Défense Le Point avec Idriss Fall.
Les bénéficiaires de la clémence du chef de l'État sont immédiatement remis en liberté d'après Joseph Betty Assomo, ministre de la Défense. Il a ajouté que la liste sera publiée au terme des audiences de différents tribunaux militaires ce vendredi. Un premier lot de 110 personnes est déjà sorti de prison. Hier, la présidence camerounaise a annoncé l'arrêt des poursuites contre 289 détenus de la crise anglophone. Le ministre précise que la mesure concerne uniquement les personnes avec des charges d'une gravité relative, mais n'inclut pas les assassins et autres commanditaires et planificateurs de la crise dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Par conséquent, Julius Sisuku Ayuk Tabe, leader séparatiste accusé de terrorisme et de sécession, n'est pas concerné. Son procès s'est ouvert le 6 décembre devant le tribunal militaire de Yaoundé, puis a été renvoyé au 10 janvier. Il avait été arrêté au Nigeria et extradé en janvier avec 46 autres personnes. Depuis fin 2017, plus de 200 membres des forces de sécurité et au moins 500 civils ont perdu la vie dans ce conflit qui a forcé plus de 437 000 personnes à fuir leur maison.
Confusion en Côte d'Ivoire où des milliers de personnes se sont réjouies ce vendredi à Yopougon, vaste commune de 2 millions d'habitants, fief historique du FPI, croyant à la libération provisoire de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. La Cour pénale internationale qui le juge actuellement n'a pas annoncé sa décision. L'audience a été reportée. Par ailleurs, Henri Konan Bédié, président du principal parti d'opposition, le PDCI, a affirmé avoir l'accord de l'ex-président Laurent Gbagbo pour une alliance en vue de l'élection présidentielle de 2020. Il y a des contacts entre le PDCI et le FPI au stade préliminaire. Les discussions vont se poursuivre, a réagi un porte-parole du FPI, Frank Anderson Kwasi, se refusant pour le moment de parler d'alliance. L'armée nigériane a annoncé avoir suspendu les activités de l'UNICEF dans le nord-est du pays jusqu'à nouvel ordre, accusant certains de ses membres d'espionnage en faveur des djihadistes. Les présidents somaliens et érythréens se sont engagés à travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme à l'issue de la première visite en Somalie du chef de l'État érythréen depuis son entrée en fonction en 1993. Ces deux pays de la Corne de l'Afrique ont entretenu pendant plus d'une décennie des relations tendues en raison notamment du soutien présumé d'Asmara aux islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda et qui ont juré la perte du gouvernement somalien.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'ex-avocat Michael Cohen a de nouveau accusé le président américain dans une interview télévisée ce vendredi. Il affirme que Donald Trump n'ignorait rien de l'illégalité des versements effectués à deux anciennes maîtresses supposées pour le prix de leur silence. Le président rejette ces accusations. Les précisions avec Jacques Aristide.
Interrogé sur ABC News, Michael Cohen affirme que les versements d'un montant de 280 000 dollars à Stormy Daniel et Karen McDougall ont été effectués car Donald Trump, dit-il, était très inquiet des effets que les accusations de ces deux femmes auraient pu avoir sur la présidentielle de 2016. D'après lui, M. Trump, alors candidat, savait que de telles transactions étaient répréhensibles. Il s'agit des premières déclarations publiques de Michael Cohen depuis sa condamnation hier à 3 années de prison par un tribunal de New York. Le président américain assure de son côté qu'il n'a jamais demandé à Michael Cohen de violer la loi et fait porter à l'avocat la responsabilité d'éventuelles erreurs. L'ancien avocat réplique « Rien de ce qui était fait au sein de la Trump Organization ne pouvait avoir lieu sans l'assentiment de M. Trump », dit-il. Pour le président, Michael Cohen était un avocat et censé connaître la loi, et d'ajouter que Cohen a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation sans aucun lien avec moi. En plus de sa peine de prison, qu'il commencera à purger en mars prochain, Michael Cohen a été condamné à 100 000 dollars d'amende.
Au Proche-Orient, un adolescent palestinien a été tué vendredi par des tirs israéliens lors de heurts en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Les mouvements palestiniens, dont les islamistes du Hamas, avaient appelé à une journée de manifestation contre Israël. Par ailleurs, les forces de sécurité de l'autorité palestinienne ont empêché la tenue de manifestations de soutien au mouvement islamiste Hamas en Cisjordanie du côté d'Hébron. L'autorité palestinienne et le Hamas sont à couteau tiré malgré de multiples tentatives de réconciliation. Une délégation sécuritaire venue d'Égypte, médiatrice historique entre Israéliens et Palestiniens, s'est rendue en Cisjordanie pour rencontrer le président de l'autorité Mahmoud Abbas jeudi soir et tenter de dissiper les tensions. Le président Recep Tayyip Erdogan, qui a affirmé cette semaine qu'une offensive turque en Syrie était imminente, s'est dit déterminé à pacifier les régions contrôlées par des milices kurdes à l'est de l'Euphrate. La Turquie a perdu assez de temps comme cela pour intervenir contre les marécages terroristes à l'est de l'Euphrate. Désormais, nous n'avons plus la patience d'attendre ne serait-ce qu'un jour de plus, a déclaré monsieur Erdogan. En France, après une importante chasse à l'homme à Strasbourg, René a de nouveau ce vendredi avec une vie normale, avec la réouverture de son marché de Noël endeuillé par l'équipée meurtrière de Shérif Cheka, tuée hier soir par la police. Le bilan provisoire est de 4 personnes tuées. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minteco qui vous est présentée ce soir par Naït Alani.
En Angola, la compagnie nationale pétrolière Sonangol et ExxonMobil viennent de signer un accord sur l'exploration pétrolière dans le bassin de la Namibe. Cette convention ouvre la voie aux négociations de contrats pour de nouvelles concessions. La Sonangol veut renforcer la recherche et la découverte de nouvelles réserves. Le pétrole représente 95% des exportations angolaises et environ 70% de ses recettes. En Afrique du Sud, l'afflux d'investissements étrangers directs a diminué de près de 3 milliards de rands au troisième trimestre de l'année, a indiqué sa banque centrale. Les entreprises étrangères envoient moins d'argent aux filiales locales. Par contre, les investissements de portefeuille ont atteint 17,9 milliards de rands. Contre 16,6 milliards de rands de juillet à septembre. Enfin, cette semaine, le cuivre, l'aluminium et le plomb se sont inscrits en légère baisse, tout comme le zinc et le nickel dans une plus forte mesure. L'étain, de son côté, a progressé. À Londres, la tonne de cuivre pour livraison dans 3 mois s'échangeait à 6 100 $ contre 6 166,50 $ la semaine dernière. L'aluminium valait 1923,50 $ la tonne contre 1959 $. Le plomb valait 1942,50 $ la tonne contre 1981 $ la semaine dernière.
Place à présent à notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ikia, bonsoir à tous.
L'Afrique du Sud est candidate à l'organisation de la CAN 2019.
Nous avons soumis notre candidature, a affirmé un porte-parole de la Fédération sud-africaine de football. La nation arc-en-ciel, seul pays africain à avoir accueilli une Coupe du Monde en 2010, a déjà organisé la CAN à deux reprises en 1996 et en 2013, année où elle a remplacé la Libye, organisatrice initiale, mais qui s'était retirée en raison de l'instabilité politique et sécuritaire. L'Afrique du Sud rejoint ici l'Égypte, autre candidate officielle. Le Maroc, lui, avait créé la surprise en annonçant qu'il ne serait pas candidat. De son côté, le Ghana, qui vient d'organiser la CAN féminine en novembre, s'est dit, par la voix de son ministre des Sports, prêt à accueillir la compétition si aucun autre pays africain n'est finalement retenu. Dans tous les cas, le pays hôte de la CAN, qui est prévu du 15 juin au 13 juillet, sera connu le 9 janvier.
16e de finale aller en Ligue africaine des champions ce week-end.
Oui, après avoir sorti le Koroki Togo en tour préliminaire, le Jaraf de Dakar se déplace demain au Maroc pour affronter le Wydad Casablanca. Le club algérien de la JS Saoura aura une mission beaucoup plus compliquée face au Marocain de Lyre Tanger, champion du Maroc en titre. Les vainqueurs de cette double confrontation accéderont à la phase de groupe, tandis que les perdants seront reversés en barrage de la Coupe CAF.
Justement, les 16e de la Coupe CAF se jouent aussi ce week-end.
Deux clubs marocains entrent en compétition demain, la RS Berkane et le Raja Casablanca tenant du titre. Les Berkani affronteront l'équipe libyenne d'Al Ittihad à domicile, tandis que les Verts se produiront dimanche au complexe Mohamed V à Casablanca contre les Gabonais d'AOCMS. Exemptés de tour préliminaire, l'étoile sportive du Sahel, le CS Sfaxien et le Zamalek feront leur apparition. Les 16 qualifiés rejoindront les barrages où ils affronteront les réversés de la Ligue des Champions pour une place en phase de groupe.
La CAF a dévoilé la liste des 10 finalistes pour le titre de footballeur africain de l'année.
Oui, on retrouve sans surprise les deux grands favoris Mohamed Salah et Sadio Mané, respectivement 6e et 22e du dernier Ballon d'Or. En revanche, plusieurs absents de marque sont à signaler avec Khalidou Koulibaly, Hakim Ziyech, Thomas Partey et Naby Keïta. À la place figure par exemple l'attaquant nigérien d'Arsenal Alex Iwobi, l'Ougandais Denis Onyango de Mamelodi Sundowns et l'Égyptien Walid Soliman d'Alali. Trois finalistes en lice pour le titre d'entraîneur de l'année, Hervé Renard, sélectionneur du Maroc, Aliou Cissé du Sénégal et Mouine Chabani, l'entraîneur de l'Espérance Tunis, vainqueur de la Ligue des Champions. Les vainqueurs seront désignés le 8 janvier à Dakar lors de la cérémonie des CAF et Or.
Merci Yacouba. Et Kabadou, toujours en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour et on commence par la République démocratique du Congo. L'incendie jeudi d'un entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante est-elle d'origine criminelle? Sans attendre, en effet, l'issue des enquêtes, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, fait allusion, sans les citer, aux déclarations contre la machine à voter de certains cadres et du candidat de la coalition Lamouka, la présidentielle, durant la campagne. Ce que rejette le camp de Fayoulou, alors que l'Église catholique appelle à des enquêtes sérieuses pour déterminer les auteurs de cet incendie. Reportage de Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Si Corneille Nangaa s'entête à imposer ses 100 000 machines à tricher, il devrait déployer derrière elle un policier pour qu'elles ne soient pas cassées, détruites et brûlées. Les Congolais vont se charger de faire respecter la loi électorale. C'est ce tweet d'Olivier Kamitatou, le directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, daté du 13 septembre 2018, qui relance la polémique entre le gouvernement et le camp du candidat Martin Fayoulou au lendemain de l'incendie à Kinshasa de l'un des entrepôts de la CENI. Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, accuse Fayoulou d'avoir été mis sur orbite pour empêcher les élections de se tenir, pas pour les gagner. Il ne fait pas campagne. Il prépare la contestation, il prépare une crise post-électorale et nous l'attendons au tournant, a-t-il souligné.
Dès le 13 septembre dernier déjà, un tweet assassin de l'un de ses pyromanes par procuration annonçait les couleurs. Si on ajoute à cela toutes les révélations qui ont été faites au sujet des véritables enjeux des accords signés par certains protagonistes de ces élections en dehors de notre pays, notamment à Genève, on peut aisément expliquer le cirque, les intimidations et les actes de provocation qui sont en train de se dérouler.
La coalition Lamouka, qui, par l'entremise de son champion Fayoulou, a condamné cet incendie, dit n'être impliquée ni de près ni de loin dans ce drame. Elle exige d'ailleurs des enquêtes sérieuses et indépendantes pour en établir les responsables. À la conférence épiscopale nationale du Congo, l'on se réserve également d'accuser qui que ce soit à ce stade avant que la justice n'ait fait son travail. L'abbé Jean-Marie Bomengola est le porte-parole adjoint de la CENCO.
Il y a un communiqué de la CENI qui nous rassure que cet incident ne va pas impacter le processus normal des élections. Et puis pour le reste, je crois que la justice va faire son travail.
Réaction mitigée dans les rues de Kinshasa à 9 jours des élections.
Avec beaucoup de regrets, on savait tous qu'on ira certainement le 23 décembre aux élections avec la machine à voter. Imaginez perdre 8000 machines, c'est pour 19 communes de la ville de Kinshasa, c'est désolant. Mais comme le président de la CENI a dit hier, je crois lors de son point de presse, qu'il y a des machines en réserve qui pourraient être remplacées à la place de ceux qui ont été brûlés. Ok, comme ils ont prévu l'imprévu, alors attendons le résultat final le 23 décembre. Olivier Kamitatou qui est tweeté, les jeunes responsables, alors que peut-être il a juste créé pour s'amuser. Aujourd'hui, on lui accuse de tout le mot, c'est possible, mais c'est aussi non, parce que établir les responsabilités, il faut des enquêtes, mais dire que c'est l'opposition, moi je trouve que c'est pas correct.
On reste inquiet par rapport à la suite du processus électoral. Il y a quand même des questions à se poser.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Pour rester en République démocratique du Congo, l'opposition part en rang dispersé dans un scrutin à un seul tour pour la présidentielle. Sur les 21 candidats dans la course, Idriss Fall a demandé à Tryphon Kin-Kié Malumba d'expliquer son alignement derrière Félix Tshisekedi.
Je me soutiens moi-même. Je suis l'un de 21 candidats président de la République. Mais à un moment donné, vu justement ce nombre important et vu les enjeux qui se précisaient. Vous savez, il y a ce problème de la machine à voter, il y a ce problème de lecteurs, près de 10 millions de lecteurs fictifs. À un moment donné, il fallait faire un choix. Je me suis inscrit dans le ticket qui est soutenu par le président Kamere, le ticket qui est conduit par le président Félix Tshisekedi. Donc nous sommes là à trois. L'un qui représente l'Est, Vital Kamere, l'autre qui représente le centre, Félix Tshisekedi, et moi-même qui ai été choisi par le deux pour jeter ce pont nécessaire sur le Congo qui représente l'Ouest.
Mais c'est une élection à un seul tour, c'est-à-dire que si l'un devance d'une seule voix, il gagne. N'était-ce pas une erreur de partir en rang dispersé déjà?
Oui, on peut voir ça comme ça, mais également on peut voir d'une autre manière. Vous savez, il y a un rejet malheureusement total du fait, sans doute, du bilan, mais du fait aussi de la communication qui a été menée de ce qui a été fait ces dernières années. Et si bien que, comme certains le disent, n'importe qui est en mesure aujourd'hui de gagner face aux candidats du pouvoir. Ça, c'est vrai. Même si le pouvoir mobilise énormément de moyens, je fais partie de ce collectif des candidats à président de la République qui a dénoncé l'usage abusif de l'appareil de l'État.
Mais ce qui me surprend, d'ailleurs, parce qu'un certain Kinky Mbulumba a créé un parti politique pour demander à Joseph Kabila qu'il puisse prolonger et rester au pouvoir pour un troisième mandat. Et aujourd'hui, vous sortez de cette coalition et vous soutenez M. Tshisekedi. Ce retournement-là, comment c'est possible?
Je n'ai pas du tout appuyé le FCC. J'ai trouvé que c'était un projet qui n'était pas cohérent. Et voilà, quand le Front commun pour le Congo a été créé, je ne me suis pas retrouvé dans ça.
Tryphon Kinky Malumba, un des 21 candidats à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo.
Jacques Aristide avec vous dans l'Amérique et vous ce soir. Décryptage de la nouvelle stratégie américaine pour l'Afrique, dont une révision de l'aide économique pour qu'elle apporte des résultats concrets. La fin envisagée des missions de paix de l'ONU jugées inefficaces et des mesures pour contrer les comportements qualifiés de prédateurs de la Chine et de la Russie sur le continent africain. Vos commentaires sont bienvenus sur la page Facebook de VOA Afrique et en direct au 001-202-205-2623. À tout à l'heure.
Au Cameroun, liberté effective depuis cet après-midi pour les détenus de la crise anglophone. 110 d'entre eux, dont les poursuites judiciaires étaient pendantes devant le tribunal militaire de Yaoundé, ont été libérés à l'issue d'une audience spéciale qui s'est tenue ce vendredi. Une libération qui fait suite à la décision prise hier par le président Paul Biya ordonnant l'arrêt des poursuites judiciaires contre 289 détenus de la crise anglophone. Emmanuel Juntap, notre correspondant à Yaoundé.
Je peux dire que ça, c'est le commencement de la paix. Parce que tout le monde qui suit ça, on sait qu'il y a quelque chose de bon qui vient. C'est une surprise. On n'attendait pas ça à ce moment. On attendait le 31 que le chef d'État parle suivant. C'est à l'heure là qu'on attend les nouvelles. C'est le joie.
Stella Yongaleng ne cache pas sa joie après la libération de son frère cadet. Il avait été interpellé il y a 2 ans en Banga, une localité de la région du littoral, pour distribution de tracts appelant à la sécession. La famille Mfé a assisté ce jour à l'audience spéciale de libération de leur fils, Yongambela Valérie Fé, est la cadette de l'ex-détenu.
Nous sommes très contents, c'est pour cela que nous sommes là avec les sœurs pour être témoins de sa libération. Et on va rentrer à la maison après 2 ans de séparation.
Pour rendre la liberté aux 110 détenus de la crise anglophone, dont les affaires étaient pendantes devant le tribunal militaire de Yaoundé, l'audience spéciale de ce vendredi a duré une 20aine de minutes. Christopher est un agriculteur, il fait partie des détenus libérés ce jour. Il avait été interpellé à Bamenda.
Je me sens très bien d'être en liberté et de passer ces derniers jours de l'année avec ma famille après 7 mois que j'ai perdu pour rien. Ça m'a fait beaucoup mal.
Au tribunal ce matin, il y avait aussi quelques défenseurs des droits de l'homme au Cameroun. Parmi eux, Maximilienne Gombe, la directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Elle salue l'acte du président Paul Biya, mais demande plus.
Il faut tous les libérer, mais il faut aussi discuter avec ceux qui ont une opinion différente, une opinion contraire, comme la Yucta. Il a ses opinions. Dans une démocratie, c'est la liberté d'opinion qui doit prévaloir. On peut mettre un comité restreint pour aller discuter, pour savoir quel est le problème exactement.
Le journaliste Michel Mbiem-Tom est parmi les bénéficiaires de la décision d'arrêt des poursuites judiciaires. Il était accusé notamment d'apologie de terrorisme. Son avocat est Maître Ntsoma Julien.
Nous saluons d'ailleurs cette décision qui va sans doute contribuer à l'apaisement de ce qu'on peut appeler crise anglophone aujourd'hui. Mais nous sommes d'autant plus fiers que la détention de Michel porta atteinte à la liberté de la presse. Donc on ne peut que se réjouir de sa libération aujourd'hui.
Parmi les 110 personnes libérées ce jour à Yaoundé, il y avait une femme et des jeunes qui vont devoir retourner chez eux. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
C'est effectif depuis ce matin. Lomé, les auditeurs togolais écoutent VOA Afrique en bande FM dans la capitale togolaise sur la fréquence 102.3. La cérémonie de lancement des programmes de la VOA s'est déroulée sous le regard de notre correspondante Kay Lawson.
L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo, David Gilmour, vient d'appuyer sur le bouton qui ouvre désormais la réception des programmes de VOA Afrique en FM à Lomé et dans la région maritime. 102.3, c'est la fréquence sur laquelle les auditeurs togolais de la Voix de l'Amérique pourront désormais suivre les émissions de la radio américaine. VOA Afrique en FM au Togo est le fruit d'une convention avec la Radio Nationale Togolaise, Radio Lomé, et la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. Peter Lunanitelu, président de la HAC, a saisi l'occasion pour rappeler les obligations de la Voix de l'Amérique.
Ces fréquences doivent être exploitées de façon professionnelle. La véracité des faits, le respect de l'équilibre de l'information. Sur ces points, l'article 2 est clair. Si la VOA ne respecte pas ses engagements, la HAC se verra obligée de retirer la fréquence à la VOA. Et connaissant le parcours de la VOA, nous ne doutons pas que la VOA respecte ses engagements.
Une assurance que réitère l'ambassadeur des États-Unis au Togo, David Gilmour.
La Voix de l'Amérique, c'est l'une des sources les plus fiables du monde. Et donc ça, c'est la raison la plus importante pour l'arrivée de la VOA au Togo, d'avoir une autre source des informations internationales, une autre source crédible pour les auditeurs togolais.
Les jeunes Togolais ont désormais une opportunité de plus pour pouvoir améliorer leur anglais grâce au programme de la station américaine, nous confie Abdou Latif Ouali, président de l'American Corner de l'Université de Lomé.
Actuellement, il y a beaucoup d'étudiants qui sont là en train d'apprendre la langue anglaise. Donc déjà, c'est un atout. Et ce qu'on attend de la VOA, c'est d'avoir de bonnes émissions en anglais pour que ça nous aide.
Cette cérémonie a plongé certains Togolais dans des souvenirs. C'est le cas du directeur de cabinet au ministère de la Communication, Franck Missité.
La Voix de l'Amérique est une radio qui a bercé notre enfance. Pour nous qui sommes nés au début des années 60. Lorsque nos parents qui captaient cette radio en ondes courtes voulaient bien nous permettre d'écouter les émissions sur cette radio. Nous avons appris beaucoup de choses à travers la Voix de l'Amérique. Nous avons eu nos premiers contacts avec le monde extérieur à travers la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique émet donc sur la fréquence 102.3 à Lomé, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des programmes aussi bien en anglais qu'en français. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Patrick Deya était à la console et Kabadou vous a présenté ce journal. Excellente écoute de VOA Afrique.